Loué le Seigneur. Pour cette communion, les uns avec les autres, et avec notre Seigneur, notre Père. Nous devons apprendre de le servir, la bonne manière, d'après sa volonté, et avec crainte. Nous puissions le plaisir et pas nous-mêmes. Ce livre de Jacques est très précieux. Je crois dans les 100 dernières années, beaucoup n'aiment pas ce livre. Je ne vais pas me voir moi-même, voilà. J'aimerais vous voir. Mais l'épître de Jacques est si pratique. C'est pas une doctrine. C'est pas une doctrine théologique, non. Mais c'est très pratique. Sans cette épître, c'est impossible dans toutes ces épîtres et dans toutes les écritures, les doctrines de Paul et Pierre d'avoir un accès. Parce que nous sommes tant dans notre moi, nous savons beaucoup de choses. Nous avons entendu beaucoup de doctrines pendant ces années, mais nous devons nous poser la question. Combien de réalités est-ce que nous avons dans notre vie journalière et dans la vie de l'Église? Est-ce que nous vivons ce que nous avons entendu? Est-ce que nous le pratiquons? Comment, de quoi est-ce qu'il en est notre la vie de l'Église? Est-ce qu'il y a de la paix? Est-ce que c'est une vraie unité? Est-ce que nous aimons vraiment l'Église de l'Éternel, du Seigneur? Et même dans notre vie personnelle, aussi avec la famille. À quoi est-ce que ça ressemble? Nous voulons être préparés pour le retour du Seigneur, c'est clair. Mais à quoi est-ce que ça ressemble pratiquement dans la vie journalière? Est-ce que nous pouvons aller en paix les uns avec les autres de l'avant? Là seulement dans la réunion, rappelez-vous d'Ésaïe 1. L'épître de Jacques est très pratique pour nous aider, pour nous exposer. Et on entend la traduction chinoise. Peut entendre la traduction chinoise. Me tourne. Toujours entendre la traduction chinoise. Il a entendu la traduction chinoise. Voilà, c'est sûrement bon. J'ai en allemand. Français. Vous attendez tous la venue du Seigneur et nous voulons être préparés. Mais à quoi est-ce que ça ressemble en réalité? T'as toujours en chinois, qu'est-ce qui se passe? Frère doit encore faire. Ah, il doit remettre la traduction chinoise. Je crois que ça allait être réglé. Nous devons tous avoir la réalité aujourd'hui, particulièrement à la fin des temps, parce que nous savons tant de choses, nous avons tant entendu, nous avons tant lu. Mais comme Jacques a dit, nous lisons, nous entendons, mais nous ne mettons pas en pratique. Et s'il y a une épreuve qui vient, alors nous échouons. On se dispute les uns avec les autres. Et à la fin, la réunion est morte. Pour ça, nous avons besoin de l'épître de Jacques. C'est très pratique. Ça nous amène dans la lumière. C'est une grande aide pour nous. Pour ça, le Seigneur nous a donné ce fardeau d'avoir de la communion sur Jacques dans ce temps. Notre cœur doit être ouvert pour lui. Que le Seigneur puisse nous parler d'une manière très pratique et qui puisse toucher notre cœur et puisse nous renouveler. J'ai la Bible devant moi, l'épître de Jacques en allemand. Au moment que j'ai pu lire la Bible en allemand, je vais à nouveau lire en allemand. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, ou un esclave, c'était pas un apôtre. Il n'a pas dit un apôtre. Paul a souvent dit un apôtre de Jésus-Christ. Pierre aussi. Pierre, un apôtre de Jésus-Christ. Bien sûr, Paul et Pierre étaient apôtres. Ils ont aussi dit qu'ils étaient esclaves. Mais Jacques, là, dit un serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Paul dit un esclave de Dieu et un apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui vous plaît le mieux? D'être un apôtre ou un esclave? Frère, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui est mieux, un apôtre ou un esclave, un apôtre? Alors je t'appelle apôtre Toby. Non, vaut mieux pas. Effectivement. Comment est-ce que je dois t'appeler? Toby, serviteur de Jésus-Christ. C'est OK. Souvent, je dis au Seigneur, je ne suis pas, même pas capable d'être ton serviteur. Que vous êtes capable d'être un serviteur de Jésus-Christ? Nous n'utilisons pas souvent dans notre langage ce mot esclave. Personne ne veut être un esclave. Est-ce que tu es un esclave? Oui, je suis un frère, je suis un fils, un enfant de Dieu. Un serviteur. Nous voulons tous servir. Nous servons dans nos pensées, nous servons en tant qu'ancien, en tant qu'ancien. Même si tu n'es pas un ancien, alors tu te comportes dans l'église comme un ancien. Ou un ancien, ça je l'ai vu. Comment est-ce que l'Église, au final? À la début de ce, cet épître, un esclave de Dieu. Ça doit toucher notre cœur. Ça doit nous exposer. Nous sommes tous des esclaves. Même dans la lettre à Ésaïe, Dieu dit, Jésus est un esclave, mon esclave. Les traductions disent c'est un serviteur, mais en fait c'est un esclave. Aujourd'hui, nous n'utilisons pas ce mot esclave. Qu'est-ce que ça veut dire esclave? C'est même une injure. Mais non, dans la parole de Dieu, il est écrit, nous sommes des esclaves. Jésus-Christ, nous sommes libres, il nous a libérés. Mais d'un autre côté, nous sommes aussi des esclaves de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des esclaves. Je crois qu'effectivement, ce mot n'est pas dans notre, dans nos pensées. Nous sommes tous si fiers. Nous voulons tous être bien vus. Nous avons tous cette réalité d'être des esclaves dans la maison de l'Éternel et pas des esclaves du Seigneur, nous aurons moins de problèmes. Rappelez-vous ce que le Seigneur a dit. Le Fils de l'homme n'a pas dit, c'est pas le Fils de Dieu, c'est le Fils de l'homme est venu. Pas pour être servi, mais pour servir en tant qu'esclave. Le mot grec signifie un esclave. Et aussi dans la maison de l'Éternel, nous voyons les serviteurs. Est-ce que nous voulons servir ou être servi. Paul dit, regardez les autres plus élevés que toi-même. Qui fait cela? qui ici? Un esclave qui est plus élevé qu'un autre esclave. Un esclave fait seulement ce que le maître dit, ce que le Seigneur dit. Nous appelons le Seigneur Seigneur, Seigneur, mais nous ne faisons pas sa volonté, mais nous faisons ce que nous voulons. Alors pourquoi est-ce que nous l'appelons Seigneur? J'ai pas compris. Est-ce que nous faisons ce que le Seigneur nous dit? Nous voulons tout temps, toute chose à lui, au lieu de se décider soi-même, ok, j'ai raison. Ici et ça, qui est le Seigneur dans la maison de l'Éternel? C'est pour ça que ça ne fonctionne pas, bien que nous ayons tant de connaissances, bien plus que d'autres personnes. Et la connaissance elle-même sur la réalité nous rend fier. C'est ce que Paul dit. C'est mieux de ne rien savoir. Un esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Parole touche mon cœur. Aujourd'hui, dans ce monde, tout le monde aimerait être élevé aussi dans le monde des affaires. Chacun aimerait aller plus haut. J'aimerais être vu, regardé. Nous, dans la maison de l'Éternel, nous ne pouvons pas accepter un peu de critique et nous sommes déjà offensés. Si quelque chose se passe dans l'Église, et à la fin, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que nous faisons avec notre opinion, avec nos opinions? Ça me rend triste. J'ai toujours nouvellement vu et j'espère que ça va pas nouvellement se passer chez nous, mais si nous ne l'apprenons pas, alors ça va à nouveau se passer. Et à la fin, demandez-vous vous-même comment est notre état et comment est l'état de l'Église. Pour cela que nous avons besoin de l'épître de Jacques. Jacques, pour ça que dans cet résumé, il répond être le vrai frère de Jésus. Il est effectivement un demi-frère dans la chair. Ou bien, frère, qu'est-ce que tu voudrais? Qu'est-ce que tu dirais si tu étais Jacques? Ah, frère de Jésus. Est-ce que tu sais pas que j'ai grandi avec Jésus? Chacun d'entre nous dire, est-ce que tu sais pas que je suis le frère de Jésus? Il n'est pas seulement un esclave de Dieu, mais il a aussi dit, un esclave du Seigneur Jésus-Christ. De pouvoir dire de lui, ça signifie quelque chose. Pour nous de le dire, c'est ok, on est un esclave de Jésus. Mais pour Jacques, pour Jude, c'est tous des frères du Seigneur Jésus. Chacun sait que il savait autrefois. Il le savait autrefois. Mais Jacques n'a pas utilisé cela. Il est un esclave du Seigneur Jésus-Christ. Ça doit nous montrer dans la vie de l'Église. Nous sommes tous des serviteurs. Nous n'utilisons pas une relation pour être vus. Pour avoir une place particulière, pour avoir un état particulier. Non. Ça, nous ne devons pas faire cela. Jacques, hein? La famille de Jésus-Christ, comment est-ce que c'est dans l'Église? Est-ce que tu es pour le Seigneur ou est-ce que tu es pour ta famille? Si quelque chose se passe dans la famille, est-ce que tu te tiens avec le Seigneur ou avec ta famille, ta parenté? C'est ainsi qu'ils ont tous regardé Jacques comme la parenté de Jésus. Jacques te dirait non. Il est le Fils de Dieu, il est le Seigneur. C'est bon pour nous d'avoir ce sentiment, dans notre cœur en tout temps, d'avoir cette conscience. Je suis un serviteur dans la maison de l'Éternel. Un serviteur. D'un côté, nous sommes l'épouse, bien sûr. Mais d'un autre côté, nous sommes des esclaves. On ne veut pas oublier, nous avons différents états devant Dieu. Louer le Seigneur. C'est très important. Combien de fois est-ce que nous voulons dire devant le Seigneur, nous ne sommes rien, nous ne sommes rien, je ne suis rien. Même le Seigneur a dit dans l'évangile de Luc, après qu'il ait tout fait, tout rétabli, il a dit, ah, je suis un esclave très utile, n'est-ce pas, frère? Est-ce que tu es un esclave pleinement utile? Un esclave inutile. Un quoi? Un esclave inutile. Je crois que j'ai pas bien compris. Oh, dis encore une fois. Un esclave inutile. Est-ce que vous avez tous entendu? Est-ce que vous êtes tous ainsi? Et est-ce qu'un esclave inutile a tant d'opinions et de critiques pour les esclaves qui sont avec lui? Si nous ne touchons pas ce point dans notre communion, alors ça ne sert à rien si nous lisons Jacques. Ça ne vient pas de notre cœur. Un esclave regarde toujours son maître pour voir ce qu'il doit faire. Il ne peut pas simplement faire ce qu'il veut. Frère qui donnait une offrande au Père dimanche pour son expérience. Dans son entreprise, il a fait quelque chose qu'il pensait, c'était très bien, c'était merveilleux, il a très bien fait. Il a montré au chef et le chef a dit, c'est bien. C'est bien, mais c'est pas ce dont nous avons besoin. Est-ce que vous savez? Devant Dieu, c'est un péché de faire ce que qu'il ne t'a pas dit, c'est le péché de présomption. Même si tu l'as fait si bien, le Seigneur va te dire, qui c'est qui t'a dit que tu devais faire cela? Tu le fais de ta présomption, de tes bonnes pensées, tu penses que c'est très bien. Mais c'est bon pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est bon? Si nous faisons quelque chose pour Dieu, de notre moi, de notre chair, ça a toujours un effet pas bon, ça détruit, ça endommage. Combien est-ce que nous, de fois est-ce que nous faisons quelque chose que nous pensons que c'est bien pour l'Église? C'est juste, c'est fou et à la fin, quel est le résultat? Est-ce que ça aide l'Église? Est-ce que ça bâtit l'Église? Est-ce que ça donne un approvisionnement de Christ? Est-ce que c'est une aide? Seulement si le Seigneur, si la vie vient de nous, sort de nous, alors ça va bâtir l'Église. Mais si c'est de mon opinion, de ma bouche, Jacques a dit, ça va même allumer un feu et à la fin, toute la maison sera à moitié brûlée. Nous devons nous repentir. Et tout, pas toujours de tenir ferme de notre côté en tant qu'esclave. Tu dis, j'ai fait ça quelque chose de bien et le Seigneur te dit, je ne te connais pas. Est-ce que, Seigneur, Seigneur, est-ce que nous n'avons pas fait ceci et cela? Et on a même chassé les démons, et on les a même annoncés. Le Seigneur dit, qui es-tu? Je ne te connais pas. C'est pour cela que nous tous devons avoir cette conscience dans la maison de l'Éternel, dans ta maison. Je ne peux pas te dire quelque chose parce que c'est toi qui es le chef dans ta maison. Dans ton entreprise, c'est toi qui es le chef, c'est en ordre. Mais dans la maison de l'Éternel, c'est pas toi qui es le chef. Mais ma Sion, c'est pas toi le roi. Mais le Seigneur est le roi. Nous devons tous venir à lui et lui donner la gloire. Et avoir la crainte devant lui. Et servir d'une manière qui le satisfait, d'après sa manière, d'une manière agréable, d'une manière qu'il puisse accepter dans ces derniers temps, particulièrement dans l'épître aux Hébreux. Comment est-ce qu'on dit en allemand? Qui le servent d'une manière agréable. C'est pas seulement agréable, c'est quelque chose qui est. Qui l'accepte, et s'il ne l'accepte pas, alors. Alors quoi? Il va pas simplement dire non, ça ne me plaît pas. Mais il dit ça, je ne l'accepte pas. Dieu ne veut pas tout accepter ce que je fais. Lui être agréable. C'est-à-dire que ça, qu'il l'accepte. Ça lui amène la joie. Cette parole esclave est importante. Ça puisse être écrit dans vos cœurs, dans notre être, pour qu'en tout temps, nous soyons rappelés dans la maison de l'Éternel, nous sommes tous des esclaves. C'est en lien avec le service, ce que nous faisons. Nous le faisons en tant qu'esclaves. Si le Seigneur me dit, ne fais pas cela, alors je ne le fais pas. Ne pas être tordu, pas d'être si rapide, d'agir si rapidement. Pour ça que Jacques dit dans le chapitre 1 déjà, d'être rapide à entendre et lent à parler. Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que ça vous plaît ou est-ce que vous faites cela? Nous faisons le contraire. Je fais le contraire. Je parle rapidement, mais je suis très long pour entendre. Je n'entends rien. J'entends difficilement, j'entends très lentement, mais ma langue est si rapide. Si tu vois quelque chose qui te plaît pas, alors ce que tu vas entendre, c'est quelqu'un dit non, non, stop, stop. Mais tu peux pas aider. Directement, ça sort comme un volcan qui sort de ta bouche. C'est bien pour leur préparation, pour le retour du Seigneur, d'être des serviteurs fidèles du Seigneur. Est-ce que ce n'est pas bon? Amen, frère. Je ne vous lis pas seulement à vous, mais à moi-même. Premièrement, à moi-même. Nous devons tous apprendre à être des serviteurs, des esclaves du Seigneur. Le Seigneur est mon témoin, je lui dis. Je lui dis très souvent, je ne peux rien faire. Pas digne de recevoir une récompense de toi, mais je suis heureux si je peux avoir part à ton royaume à venir. Avec ou sans récompense, je ne suis pas digne. Particulièrement en tant que quelqu'un qui guide l'Église, nous devons être un modèle pour les saints, de servir pour pas être servi. Qu'est-ce que ça veut dire d'être servi? Les autres sont plus élevés que toi. Un esclave, d'être un esclave, c'est être plus bas que tous les autres. Comme le Seigneur de Philippiens 2, il ne sait pas seulement. Jésus est venu en tant qu'un homme, sur le même niveau des hommes, mais il est venu encore plus bas qu'un homme, en tant qu'un esclave. Dans la maison de l'Éternel, d'avoir cette conscience, d'avoir la réalité dans notre cœur, de l'avoir, alors nous aurons moins de problèmes dans la maison de l'Éternel. Les 12 tribus dans la dispersion. Autrefois, c'était pas à cause des disputes, mais c'était à cause des persécutions. Mais aujourd'hui, nous les croyants, nous sommes dispersés. Cause différentes opinions. Et il y en a un qui aimerait être plus élevé. Quelqu'un fait ce qu'il, chacun fait ce qu'il veut. Et à la fin, nous sommes divisés. Mais autrefois, c'était la dispersion par la persécution. Aujourd'hui, personne ne vous persécute ou bien, sauf vous-même. Est-ce que vous persécutez les saints dans l'église? Non? Est-ce que tu persécutes ton homme, ton mari ou ta femme? Ah non, c'est juste des disputes. Non, c'est des persécutions. Nous devons aimer les saints. Mais aimer, ça ne veut pas dire que nous tolérons tout. Rappelez-vous, nous nous tenons du côté de l'Éternel. Pas du côté de la parenté. Et les saints, nous tenons du côté de l'Éternel et pas du côté, ah ok, je suis d'accord avec toi et je ne suis pas d'accord avec lui, alors on fait des persécutions. Et beaucoup, autrefois, du temps de Jacques, dans Actes, ils ont tous été dispersés à cause de la persécution. Et aujourd'hui, les divisions, c'est pas à cause des persécutions. Jacques, serviteur, un apôtre de Jésus-Christ, à tous les croyants dans la division. Ça, c'est un peu différent, ça a l'air. C'est un peu différent. Tu peux avoir beaucoup de communion, mais sûrement, personne ne veut accepter ta parole si tu as différentes divisions, alors ils vont te jeter dehors. Mais c'est ceux qui sont dans la dispersion. Ils ont eu un tel cœur pour ceux qui étaient dispersés. Et aujourd'hui, le Seigneur aimerait nous apprendre d'avoir un cœur pour tous les croyants qui sont prêts et ouverts pour entendre la vérité. Et même s'ils veulent entendre, alors nous aurons l'opportunité de pouvoir leur dire quelque chose. Nos paroles ne sont pas pour nous-mêmes, ce que le Seigneur nous a donné, mais pour tous les croyants, pour tous ceux qui veulent. Et nous avons besoin de voir. Ils se tiennent devant le Seigneur. En tout cas, puisse parler l'évangile partout, ça c'est déjà bien. Mais j'apprends de laisser cela au Seigneur. J'aimerais laisser cela au Seigneur. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord, mais j'aimerais pas être le juge, j'aimerais être un esclave. Un esclave ne juge pas. Ils se tiennent devant leur Seigneur. Je ne suis pas le Seigneur pour le servir et servir l'Éternel. Qui je suis? Qui suis-je pour les juger? Je suis heureux si nous pouvons faire fidèlement ce que le Seigneur nous a donné comme tâche, ce qu'il nous a donné. C'était aussi l'attitude de Paul. Même l'église à Jérusalem ne veut pas la toucher. De la manière que le Seigneur lui a donnée, dans la mesure dont il va servir en tant que serviteur et en tant que sacrificateur. Ce que les autres font, on n'a pas besoin de le toucher ou bien de le juger. Ils se tiennent devant le Seigneur. Laissez le Seigneur œuvrer en eux ou les juger. Le Seigneur doit aussi juger en nous. J'espère que nous n'allons pas être dispersés par des persécutions. Par notre comportement. Mais rappelez-vous, nous devons nous tenir du côté de l'Éternel, du côté de la vérité, du côté de l'Éternel. Nous faisons ce que la parole de Dieu nous dit. Parfois, ça a l'air d'être difficile, mais le côté de l'Éternel, c'est toujours le bon côté. Je crois que c'est assez pour ce point, cher frère. Et au verset 2, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquels vous pouvez être exposé. Est-ce que tu penses, d'une manière spirituelle, nous n'avons pas besoin d'épreuves? Nous avons besoin de beaucoup d'épreuves. N'est-ce pas? Ou c'est pas le cas? En tant qu'homme, du jardin d'enfant jusqu'à l'école et jusqu'au lycée, à l'université, et aussi dans la famille, dans le couple, au travail, dans tous ces domaines, il y a tant d'examens. C'est vrai, est-ce que tu n'as pas eu beaucoup d'examens? Oui. Est-ce que tu as toujours tout réussi? Non, pas toujours. Est-ce que tu te réjouis dans les épreuves? Non, pas du tout. Personne ne se réjouit dans les épreuves. Qu'est-ce que tu fais dans les examens, si tu loupes, alors tu dois répéter jusqu'à ce que tu réussisses. Tu ne dois pas partir. Non. La deuxième fois, pas réussi. Arrêter, partir, changer d'université, changer de domaine. Non. Persévérer. Vraiment. Je te crois. Parce que tu n'as pas d'autre chemin. Où est-ce que nous devons aller? Mais nous, dans ces épreuves spirituelles, qu'est-ce que nous faisons? Je vois le frère. Le frère n'est pas parti, regardez. Il a persévéré. Il est toujours là aujourd'hui. Je me réjouis toujours quand je le vois parce qu'il est toujours là. Il n'est pas disparu, il n'est pas parti. J'ai un peu appris dans les épreuves de me réjouir. Les frères ont été mis dehors. Est-ce que vous êtes partis? Non, vous avez été mis dehors. Qu'est-ce que je vous ai dit? Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Parce que nous voyons dans Matthieu 5, est-ce que vous n'avez pas lu ou est-ce qu'on n'a pas souvent parlé de cela autrefois? Qu'est-ce que tu dois faire si tu es persécuté? Pleurer, être dans la détresse. Qu'est-ce que dit le Seigneur? Réjouissez-vous. Vraiment? Se réjouir. Quand j'avais vu quelqu'un qui est persécuté et qui se réjouit, alléluia. Est-ce que tu as vu cela? Oui, j'ai vu. J'ai vu cela avec vous. J'ai vu. Le frère a dit, se réjouir. Il a même mis dans un cadre et mis au mur. C'était un diplôme. C'était célébré. Mais ce n'est pas notre attitude. Mais ça, c'est ce que le Seigneur nous a dit. Si nous avons des yeux, nous pouvons saisir pourquoi le Seigneur nous amène par ces épreuves. C'est parce que il veut nous amener une valeur par ces épreuves. Et quand tu as passé l'épreuve, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu t'es pas réjoui? Sœur, finalement, j'ai réussi. Et est-ce que tu penses? Seulement après l'examen, tu t'es réjoui? Mais tu dois apprendre. Maintenant, je suis si loin. Maintenant, je dois faire cet examen. Je suis arrivé si loin. Est-ce que tu as pensé ainsi? J'espère que je vais y arriver. Mais l'attitude des examens, des épreuves, c'est de se réjouir comme une joie parfaite. Sujet de joie complète, réjouissez-vous. C'est une situation dans l'Église. Quelle est notre attitude? Louez le Seigneur. Maintenant, c'est une occasion de gagner Christ. Ou bien, si tu as cette attitude, alors, est-ce que tu vas te mettre en colère, tu vas te fâcher? Le frère, qu'est-ce que tu fais si tu es dans une épreuve? Tu te mets en colère ou est-ce que tu te réjouis? Parfois les deux. C'est déjà bon que ce soit. Parfois. C'est dans les épreuves. Il a dit que tu te réjouis alors qu'il n'y a rien qui peut se passer. Si tu n'as pas cette attitude et tu vas par les épreuves, alors ça c'est pas bon. Alors les épreuves vont être quelque chose qui n'est pas bon. Réjouissez-vous dans notre vie chrétienne, particulièrement le Seigneur accepte que nous passions par des épreuves. Pierre et Paul l'ont aussi dit. Pierre a dit notre foi doit être éprouvée par le feu afin que ce qui est précieux, l'or et l'argent, ressortent. Mais nous ne le voyons pas. Nous le lisons, Pierre, dans Pierre 1, plusieurs fois. Je ne sais pas combien de fois j'ai déjà lu Pierre 1. Mais quand les épreuves viennent, alors j'ai complètement oublié ce verset. Comme si je l'avais encore jamais lu. Pour le frère, c'est déjà bien. Parfois, il se réjouit, mais pour moi, je me suis encore jamais réjouie. La première réaction, c'est pourquoi est-ce que cela se passe? Pas la première réaction, c'était pas louer le Seigneur pour une nouvelle occasion. Je demande au frère parce qu'on a quasiment le même âge. Nous devons tous apprendre de se réjouir. Regardez pour une joie parfaite, comme un sujet de joie complète. Quoi de regarder, ça veut dire que tu dois le faire. Ça dépend de toi. Comment est-ce que tu prends cette chose? Si tu viens dans une épreuve, et tu la prends, tu passes par cette épreuve, tu la traites. Ton attitude est importante. Si ton attitude dans ton moi, dans ta chair et dans ta chair, et ensuite tu réagis, alors tu vas réagir différemment. Si ton attitude est en esprit devant le Seigneur et tu vois Seigneur, c'est une merveilleuse, merveilleuse occasion de te toucher. Alors tu peux faire ce que le Seigneur a dit dans Matthieu 5. Il doit aller parce que quelqu'un qui est à la porte. Toujours le problème. C'est le problème quand on est à la maison et pas dans une salle. Là, il y a beaucoup de choses. Ceci est une épreuve. Mes chers frères et sœurs, c'est important, cette parole est si pratique. J'aimerais seulement vous dire, plus nous grandissons dans la vie spirituelle, l'épreuve, ça sera plus difficile. Les épreuves seront plus difficiles. Comme Abraham au début, c'était très facile. Mais dans Hébreux 11, cette épreuve que Dieu a laissé à accepter de pouvoir offrir Isaac, ça c'est un examen pour un doctorat, travail de doctorat, c'est un examen de doctorat. De sa foi, d'offrir son fils unique, Isaac, sur l'autel. Comment était la réaction d'Abraham? Non, Seigneur, c'est pas possible. C'est une blague, ou bien? Est-ce que c'était la réaction? Peut-être que Dieu s'est trompé. Est-ce que c'était la réaction d'Abraham? Non. Réjoui, il n'a pas dit Alléluia, mais il n'a pas. Il n'a pas cru. Il a directement, sans attitude négative, il a directement fait. Il a tout préparé. Parce qu'il a cru en Dieu. Et Dieu ne lui a même pas, lui a pas dit une fois. C'est rien. Offre ton fils et je pourrai le ressusciter des morts. Non. Ça encore jamais. Après, on n'a encore jamais vu quelqu'un qui était ressuscité des morts. Il y avait encore aucune de ces nouvelles doctrines. Dans la nouvelle alliance, nous avons la résurrection de Jésus-Christ des morts. Mais autrefois, ce n'était pas encore le cas. D'où est-ce qu'il a reçu cela? D'où est-ce qu'il a reçu cette représentation? Cette révélation? Quelle était sa relation avec Dieu? C'est si proche. Il est passé par beaucoup d'épreuves. D'une étape à une autre étape. Jusqu'à ce qu'il ait atteint ce but. Il a même dit, c'est la seule possibilité. Pourquoi est-ce que Dieu a demandé cela? Alors si mon Isaac meurt, alors Dieu va le ressusciter des morts. Et ensuite, le plan de Dieu sera accompli. Par Isaac, il doit y avoir beaucoup de semences aussi tant que ce qu'il y a d'étoiles dans le ciel et le sable sur la mer. D'où est-ce qu'il connaissait cela? Ça veut dire par l'épreuve. Nous allons encore plus reconnaître ce merveilleux Dieu. Est-ce que c'est pas merveilleux? Pour ça que nous ne devons pas retirer ou partir des épreuves, mais aller de l'avant. Et par les épreuves, de pouvoir plus reconnaître Dieu, ce qu'il fait, au lieu de se plaindre, au lieu de regarder notre propre droit, notre critique, mentir. Les épreuves doivent nous amener de l'avant. Ça doit même nous donner une révélation. Que nous puissions plus connaître ce merveilleux Dieu comme Abraham. Est-ce que vous pouvez vous représenter avec l'offrande d'Isaac? Est-ce qu'il n'a pas reconnu Dieu? Et un Dieu qui peut ressusciter d'entre les morts? D'où est-ce qu'il a eu ces pensées bizarres? C'est bizarre. Autrefois, si quelqu'un t'avait demandé, Abraham, maître, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu penses? C'est Abraham. On va dire, s'ouvre un sacrificateur, ah, c'est rien, Dieu va le ressusciter d'entre les morts. Est-ce que tu penses qu'il aurait dit Amen? Abraham l'avait dit ou à son fils. Je crois que les hommes auraient pensé. Et il est fou. Mais il a reçu une merveilleuse révélation. Et il a connu Dieu en tant que celui qui peut ressusciter les hommes d'entre les morts. C'est merveilleux. Tant d'épreuves par lesquelles nous sommes passés nous ont amenés de l'avant. Parce que sinon nous serions restés là où nous sommes, dans la tombe. Dieu aimerait nous amener de l'avant par les épreuves. Que pour arriver à l'état où tu as dû passer par des épreuves. Ça n'a pas été sans épreuves. Tu as beaucoup appris. Les examens et le temps. Alors, tu as beaucoup appris, tu peux aller de l'avant. Tu peux continuer. Sans les épreuves, est-ce que tu penses? Est-ce que tu peux aller spirituellement de l'avant? Autrefois, les épreuves, c'était seulement ah non, j'aime pas. J'aime pas les examens. T'as eu des larmes et des murmures. Mais aujourd'hui, si tu regardes en arrière, tu es reconnaissant, tout bien. Nous sommes tous reconnaissants. Je suis si reconnaissant pour toutes les épreuves. Pas à l'université, mais les épreuves spirituelles. Nous avons tous tant appris par les épreuves. C'est ainsi. Regardez comme une joie parfaite. Suis-je de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé? Être exposé de tomber dans les épreuves. Est-ce que c'est pas si bon? Tu n'acceptes pas si volontiers l'épreuve, mais tu tombes. Dans ces 100 attentes, sans devoir prier deux mois de plus encore d'épreuves, mais vous tombez. Ça n'a rien à voir avec ta décision. Je n'ai pas prié pour les épreuves. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas du tout attendues et soudainement, je suis tombée là-dedans. Est-ce que tu as frère attendu de telles épreuves? Jamais. Mais comment est-ce que tu es arrivé là? Je suis tombé là-dedans. Pour ça, ne vous plaignez pas. Pourquoi? Nous cherchons tant d'explications. Est-ce que c'est ma faute ou pas? Est-ce que j'ai fait quelque chose de faux? Non. Oublie cela. Mais réjouis-toi. Merci Seigneur pour cette épreuve. Dieu l'a arrangé pour toi. Préparez pour que tu sois prêt pour cette épreuve parce qu'il est écrit dans 2 Corinthiens. Dieu n'accepte, ne permet pas que tu sois tenté au-dessus de tes capacités. Dieu sait de quel examen nous avons besoin. Tu peux pas préparer un examen pour quelqu'un d'autre, ça ne va pas. Alors il va échouer. Même pas besoin d'aller dans à l'examen. Il va échouer. Mais chaque examen dans lequel tu tombes, il est exactement juste pour toi. Il n'est pas attendu. C'est bon. Et nous avons appris quelque chose de Dieu. Regardez comme un sujet de joie complète. Si nous, si vous tombez dans diverses épreuves, il y a différents types d'épreuves, diverses épreuves. Dieu, dans sa sagesse, diverses épreuves, il les a laissées. Si nous tombons là, alors nous devons nous demander pourquoi. Parce que nos épreuves spirituelles ou notre croissance spirituelle, elle a plusieurs aspects. Pas seulement des bons aspects. Nous voulons seulement expérimenter les bonnes choses, n'est-ce pas? Recevoir des belles révélations, recevoir des belles révélations, et ensuite, quand les épreuves viennent, alors cette révélation ne t'aide pas. Si nous n'avons pas cette attitude, j'ai besoin des épreuves. Par les épreuves, tu sais où c'est que tu te trouves. Si tu as appris quelque chose ou pas. Parce que sinon, si tu as seulement dans ta tête et tu as tant de connaissances, arrivé là, alors ensuite tu es tombé, alors tu sais, Seigneur, je ne suis pas arrivé si loin. Comme Jacques a dit, l'essence nous tr te trompe. Tu te trompes toi-même. Le temps de l'épreuve, on ne sait rien de ce que nous savons vraiment, de ce que nous devons savoir. Si nous nous préparons pour le retour du Seigneur, alors nous attendons. Nous attendons les épreuves. Est-ce que la pandémie, ce n'est pas une épreuve pour le monde? Est-ce que c'est une épreuve pour vous? Notre chair et notre moi, notre vie de l'âme, elle n'est pas différente que les hommes dans le monde. Les épreuves viennent. Dépendant de si tu fais confiance au Seigneur ou pas, pouvoir comprendre qu'est-ce que ça signifie ou est-ce que tu t'es pas demandé qu'est-ce que ça signifie. Est-ce que tu pensais seulement pour le monde et pas pour nous? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que nous avons gagné? Qu'est-ce que ça a à voir avec le retour du Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur veut de moi que j'apprenne? Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Où est-ce que tu penses à? Ça n'a rien à voir avec moi. Qui sait? Toute chose, c'est une épreuve. Est-ce que tu penses autrefois les persécutions, les dispersions, ah, ça n'a rien à voir avec nous. C'est rien. Le Seigneur utilise tout. Nous sommes et nous vivons dans ce monde. Et l'ennemi utilise tout pour nous tirer en bas. Et même pour nous détruire, pour nous influencer. Toute chose a une influence. Et ainsi, par diverses épreuves. C'est ça ce dont nous avons besoin. Et savez que l'épreuve de votre foi produit la patience. La patience. La persévérance. Notre patience est si courte, n'a pas de persévérance. Minute peut-être. Il y a une sagesse quelque part qui dit Thomas Jefferson, si tu perds ta patience, alors compte. Pas d'ouvrir la bouche, mais compte. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10. C'est peut-être un bon conseil. Ça joue pas jusqu'à 10, mais jusqu'à 50. Et ça fonctionne pas, alors compte jusqu'à 100. Et si ça continue, ça marche toujours pas, alors compte jusqu'à 200. Et ensuite, peut-être ça va fonctionner. Mais je ne crois pas. Sans la vie du Seigneur, nous n'avons pas besoin de 10 à 20 à 100, mais nous avons l'Esprit, le Saint-Esprit qui habite en nous. Qui œuvre la persévérance en nous, qui freine notre chair. Est-ce que tu vas au Seigneur? Est-ce que tu vas au Seigneur et tu lui demandes qu'est-ce que tu veux faire dans ce temps? Est-ce que tu lui parles? Si tu comptes, alors tu te parles seulement à toi-même, mais tu dois parler à lui. Mais si tu te tournes au Seigneur et tu parles au Seigneur, tu le parles avec lui et tu lui laisses te parler, alors le Saint-Esprit va nous guider, va nous amener, va nous donner de la persévérance. 2 Pierre 1. Nous n'avons pas de persévérance, de patience. Nous sommes directement comme un volcan, nous explosons. Et à la fin, rien de bien qui peut se passer. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Comme dans Romains 5, la foi œuvre la patience. Ça dont nous avons besoin. La patience, persévérance. La patience. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Ça veut dire, tu ne dois pas quitter, partir. Ensuite, cette persévérance se dira, attends, j'ai pas encore terminé. J'ai pas encore terminé tout mon travail en toi, c'est pas encore terminé. Ne pars pas. Laisse cette patience par le Saint-Esprit en nous faire son œuvre parfaite. Accomplis son œuvre parfaite. N'arrête pas avant que son œuvre soit accomplie. afin que vous soyez parfait et accompli, sans faillir en rien. Particulièrement dans ce point où Dieu veut nous amener des leçons. Si tu arrêtes avant, alors là, ainsi tu gagnes rien. Parce que l'œuvre n'est pas encore achevée. Si l'œuvre, elle est arrêtée au milieu, elle est coupée, et elle n'est pas achevée, alors tu dois recommencer depuis le début. Alors l'œuvre dans cette épreuve n'est pas parfaite. Alors tu ne peux pas aller à une étape plus haut, tu dois répéter. Avoir la persévérance est importante. Laisser le Saint-Esprit par ce point-là. C'est une vertu du Saint-Esprit par la foi. C'est une nature importante. Dieu a une grande patience, une longanimité. Combien est-ce que la longanimité est longue? Combien est-ce que Dieu est patient avec toi? Combien est-ce qu'il est patient avec toi? Très patient. Combien? Beaucoup. Est-ce qu'on ne peut pas le mesurer? Pas un mètre assez long pour pouvoir mesurer la patience de Dieu, la longanimité de Dieu. Et combien est-ce que ta patience est longue? Elle est très courte. Combien courte? Combien courte en secondes? Encore moins. Est-ce que tu penses moins que ma patience? Ou probablement oui. Je suis pas si sûre, mais ce que tu penses de notre nature est seulement quelques secondes. Ça dépend comment est l'épreuve, comment est la situation. C'est ainsi. Mais la patience doit accomplir parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits, afin que nous soyons parfaits, accomplis. D'épreuve en épreuve. Que vous manquiez en rien, sans faillir en rien, particulièrement dans ce point, ce qui est l'examen de notre vie spirituelle. Si nous échouons, alors le Seigneur doit nous dire, ok, frère, répète. Refais encore cet examen pour la prochaine situation quand tu seras prêt. Louez le Seigneur. Première réunion. C'est une introduction pour Jacques.